Comment combattre le mal qui frappe au hasard n'importe où et n'importe quand? Si personne n'a pu encore répondre de façon satisfaisante au mystère du mal, les récits bibliques ou littéraires nous apprennent que nous ne sommes pas seuls face aux épreuves infligées par la vie. Dieu est avec nous, jusque sur nos croix, pour nous en faire sortir et nous ouvrir un passage vers la vie. C'est ce que nous enseigne le christianisme, que nous vous proposons d'explorer aujourd'hui avec le père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste.
Psy et Spi avec le père Jean-François Noël, dialogue RCF.
Bonjour père Jean-François.
Bonjour Sophie.
Alors, dernière émission aujourd'hui, hein, consacrée à ce mystère du mal qui frappe aussi les gens bien. Alors, le mal qui frappe les gens bien, qui crée une perte de sens. Comment, selon vous, on peut faire face à cette perte de sens, finalement, d'un mal qui frappe au hasard et qu'on ne comprend pas?
Par la lutte, le combat, la révolte, le non-consentement.
Ah, c'est marrant, j'aurais plutôt pensé que vous m'auriez dit la prière, l'abandon à Dieu, enfin je sais pas.
Bon, peut-être que je suis pas très chrétien.
Non, j'espère pas quand même.
Non, mais bon, la prière peut-être une forme de non-consentement.
Mais pas tout de suite peut-être?
Alors, j'ai en tête, mais je vais vous le dire maintenant, parce qu'après je l'oublierai peut-être, mais j'ai en tête cette phrase de Paul Ricoeur quand même, qui a toujours des formules à la fois fortes et condensées. Le mal, c'est ce contre quoi on lutte quand on a renoncé à l'expliquer. Ça, c'est du Ricoeur. C'est parfait, Ricoeur. Ce contre quoi on lutte quand on a renoncé à l'expliquer. L'explication, en fait, c'est la mauvaise réponse à la question du mal, puisqu'on va tomber dans des impasses et des labyrinthes. Justement, l'intergénérationnel, on faisait état. C'est une solution, mais en même temps, ça n'a pas à résoudre. Ça ne nous défait pas de l'obligation de lutter, quoi.
Et c'est pas toujours très bon non plus de remuer tout ce qui est négatif comme ça autour du mal. Je pense à l'intergénérationnel, mais même de manière générale, qu'est-ce que vous en pensez? Quand dans la Bible, il est écrit « Choisis la vie »,
oui,
justement, c'est peut-être de ne pas rester toujours
oui,
dans...
Oui, mais il y a un temps... Enfin, c'est ce que me disait un patient récemment, qui arrêtait d'ailleurs son travail. Il me disait « Il y a un temps pour, quoi. Il y a un temps pour interroger, pour essayer de sonder son héritage, de difficultés de sa propre famille. Et puis, il y a un temps pour se mettre en route dans la vie et lutter. » Et il a raison. Et moi, je suis favorable. J'invite beaucoup des patients à ne pas rester dans la position d'analyse, mais à rentrer dans un véritable combat. De toute façon, le récit, la remémoration, c'est un temps pour, mais on ne va pas y rester toute la vie. Moi, je ne crois pas aux analyses trop longues. Justement, elles vont nous égarer dans des explications pas stériles, mais qui vont peut-être nous démissionner de...
Non, alors je suis très étonnée de vous entendre dire ça.
Je vois votre tête, oui, parce que...
Non, alors parce que je trouve que, si je puis me permettre, alors je ne connais pas forcément toute la planète psy, mais ce que j'ai pu en entendre, c'est que certains psys vont dire il faut que ce soit court, il ne faut pas que ça dure longtemps, et d'autres vont vous dire ça doit durer des années, ça peut durer des années.
Non, c'est fini.
Peut-être pas de règles aussi, non?
Il n'y a pas de règles, mais on ne peut pas... Enfin, après, il y a des patients que je vois pendant un temps, que je ne vois plus puis que je revois, parce que de fait, ils ont besoin d'une réactivation de leur mobilisation personnelle. Mais ça suffit le temps où on passait... Des années sur un divan. Je crois que là, en tout cas, comme moi, psychanalyste, je ne crois pas. J'ai un peu peur que ce soit des transferts un peu, morts, hein, qui ne s'en sortent pas, quoi. Il faut que la personne puisse me quitter, puisse y revenir, mais elle est mobilisée pour sa propre lutte. Il faut qu'elle retrouve les forces de sa propre lutte personnelle, de décision. Même si, effectivement, on invite le patient à ne pas prendre de décision pendant le temps du travail, maintenant, les événements sont tels qu'on n'est pas à Freud à l'époque, on n'est pas à Vienne à l'époque de Freud. On ne peut pas passer 3 jours par semaine chez un psy et attendre ce qu'on appelle l'abstinence. Il y a l'abstinence chez Freud, ce n'est pas l'abstinence sexuelle. C'est le fait de ne pas prendre de décision importante pendant le temps du travail. C'est aussi demander pendant un temps de travail thérapeutique, quelle qu'en soit la forme. Mais on ne peut pas suspendre quelqu'un pendant 2 ans ou 3 ans complètement de ses décisions qu'il a à prendre dans sa vie. Ça va trop vite maintenant. Et puis, à mon avis, il faut trouver des thérapies à la fois, non pas plus brèves, mais par tranche, par exemple. Enfin, il faut travailler différemment. Sinon, de toute façon, les psychanalystes, on va se faire doubler par les gens qui veulent des thérapies plus efficaces. Même si c'est c'est un autre débat dont on pourra parler. Bon. Il n'empêche que on n'est pas dispensé de retrouver ses forces et son choix de la vie, comme vous le disiez, du Deutéronome, de rechoisir la vie au cœur même des attaques qu'on peut subir d'un mal dont on a hérité sans le savoir, ou d'un mal qui nous attaque, qui est une épreuve qui vient de traverser. L'analyse est une parenthèse pour mieux lutter à l'intérieur de notre propre vie.
Alors on va revenir à la position du christianisme, et j'aimerais revenir quelques instants sur le livre de Frédéric Leichter-Flack, Pourquoi le mal frappe aussi les gens bien. Elle cite dans son livre de nombreux exemples littéraires des récits de vie qu'elle présente comme des ressources pour affronter ce mal qui frappe les innocents dans le respect de la dignité humaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que la littérature réussirait finalement là où la théologie et la philosophie ont échoué, pourrait-on le dire ?
C'est une drôle de formulation, je ne m'attendais pas à ça.
Pourtant, c'est vous qui m'avez parlé du livre.
Hein. Oui, que dire, j'ai lu et relu avec beaucoup d'intérêt, parce que...
Vous voyez les récits littéraires...
Je pense que là où elle a raison, c'est que les histoires, les contes, le roman sont des tentatives de, non pas de résolution, mais de chemin tracé pour nous aider à vaincre le mal, voilà. Et c'est d'ailleurs, je l'ai dit déjà à ce micro, c'est pour ça qu'on raconte des histoires complètement fausses aux enfants, enfin fausses, des contes, les contes et légendes sont faits pour aider les enfants à traverser leurs propres épreuves. Ça, c'était Bettelheim, qui prouvait la nécessité des contes de fées pour que les enfants, on raconte des histoires aux enfants, pour que les enfants élaborent des solutions.
Trouvent des ressources, et c'est pas valable pour les adultes aussi ?
Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est une des belles choses de Freud, c'est que la culture, enfin, die Kultur en allemand, dont d'ailleurs religion fait partie, sont... mille et une tentatives de réponse par rapport à... C'est pour ça qu'il faut lire des romans, qu'il faut voir des bons films, qu'il faut aller voir des tableaux.
C'est aussi thérapeutique de faire ça ?
Ben bien sûr. Moi, c'est la première chose que je propose à mes patients, c'est de reprendre la lecture.
Ah, c'est votre prescription à la fin d'une séance ?
Ben, des bons films. Il y a des films dont on sort abruti parce qu'il ne s'est rien passé et que voilà. Et puis des films qui vous font élaborer sur des drames. Même des séries qui sont très bien faites pour ça, pour que la fiction m'aide à formuler ma propre réponse. C'est ça la culture. Un tableau de peinture, une pièce de théâtre, vous savez de quoi nous parlons, et puis d'autres formules ont été inventées pour que l'homme voit et projette dans une histoire fausse. C'est pas vrai que Médée veut tuer ses enfants. C'est complètement inventé, mais beaucoup de... Il arrive que des mamans soient poussées à craindre en elles-mêmes de trouver des pulsions infanticides, par exemple. Mais je pense à un cas extrême comme le théâtre antique, voilà, Médée, mais aussi des choses plus... Et le théâtre a été inventé pour réguler nos passions. Donc, elle a parfaitement raison quand elle fait appel, que ce soit à Shakespeare, je ne me rappelais plus à quel point le roi Lear, c'est terrible, quoi. C'est horriblement dramatique. Je me rappelle l'avoir vu maintenant, mais en relisant chez elle, c'était vraiment... Puisqu'il arrive trop tard. La fille qu'il avait tenté de sauver et qui finit par mourir avant qu'il arrive. Et puis, le comte de Monte Cristo, je ne me rappelais pas à quel point c'était aussi tragique. Et qui c'est qui n'a pas pleuré à la mort de la maman de Bambi dans... Bambi
Oui, c'est ça, de Walt Disney.
Bon,
oui.
Moi, j'ai pleuré comme... Et au fond... Donc, c'est très intéressant le travail qu'elle a fait parce que elle a été cherchée du côté de la culture, donc des grands romans. Il y a Shakespeare, il y a Roth, il y a Monte Cristo,
Dostoïevski,
etc. Le traitement, la traversée du mal. Oui, Dostoïevski, c'est un grand moment. Et c'est vrai que, pour le coup, le bel héritage de la pensée des autres nous aide à traverser notre propre épreuve, nos propres épreuves.
Et sur la réponse chrétienne, alors Dieu, on ne comprend pas toujours qu'il permette ce mal, mais en même temps, on ne peut pas dire que Dieu n'est pas à nos côtés face au mal qu'on subit, qu'il souffre avec nous, on pourrait dire.
Oui, En fait, la réponse chrétienne, c'est je ne vais pas te sauver du mal, je vais t'aider à le traverser. Je vais être ton compagnon si intime que parfois tu penseras que je ne suis pas là, et pourtant c'est moi qui te donnerai la force de la traverser. C'est ça la réponse chrétienne. À travers l'esprit, Dieu se fait plus intime que notre intimité, au point que peut-être parfois nous ne le reconnaissions pas, pour que son esprit nous donne la force, l'intelligence, le zèle, ça s'appelle les fruits de l'esprit, pour que je puisse traverser cette épreuve. Il ne va pas me sauver de l'épreuve.
Et alors concrètement, ça se matérialise comment? Alors, vous savez qu'en Église, on parle parfois de consolation, par exemple. C'est un terme qui est souvent employé.
Parfois, l'épreuve est telle qu'on a l'impression d'être abandonné, de ne pas trouver les forces en soi-même, et que de fait, on a besoin d'être consolé ou délivré de nos peurs et de nos craintes que Dieu nous a abandonnées. Donc la prière, sous toutes ses formes, depuis le début de l'histoire de l'Église, vient aider l'éprouvé à retrouver confiance en cette présence intime de Dieu qui, parfois très anonymement, vient nous aider à traverser. Alors, cette réponse-là, elle est à la fois... Et c'est important de le dire maintenant, elle est à la fois personnelle et collective, parce qu'elle est personnelle en sens que c'est vraiment l'esprit qui vient visiter chaque intimité de l'homme, et en même temps, je ne peux la nourrir que dans le cadre d'un groupe, enfin, d'une assemblée, d'une église, dans lequel je viens ressourcer ma confiance en Dieu pour que Dieu m'accompagne moi, mais à travers le don qu'il va faire dans l'assemblée dans laquelle j'appartiens.
Donc on a envie de dire aux auditeurs, revenez dans les églises. Parce que souvent, bon, ils sont un peu désertés quand même.
De fait, oui, mais moi, même si j'aime pas l'idée, venez, ça fait un peu quand même un peu vente aux enchères ou je sais pas quoi, commerce là. Mais un chrétien isolé ne peut pas se trouver, ne peut pas se ressourcer et retrouver la force dont il a besoin pour traverser ses propres épreuves. Voilà.
Merci beaucoup, Père Jean-François Noël, pour vos éclairages à la fois en tant que prêtre et psychanalyste. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions Psy et Spi sur rcf.fr. Place à un nouveau thème mercredi prochain. On vous donne rendez-vous à 11h. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur RCF.
Psy et Spi avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF.